Depuis 2019, la Pologne est le théâtre d'un conflit géopolitique orchestré par le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko. Pour déstabiliser l'Europe, il encourage des milliers de candidats à l'exode venus d'Afrique et du Moyen-Orient à transiter par son pays pour entrer sur le territoire européen. Les migrants, livrés à eux-mêmes, se retrouvent contraints d'escalader le mur de 200 km érigé par le gouvernement d'extrême droite polonais en 2021. De l'autre côté, c'est la plus grande forêt primaire d'Europe, marécageuse, sans fin et inhospitalière. Sur ces 300 km² de forêt, se joue une crise humanitaire majeure. Nous nous y sommes plongés pendant un mois, partant à la rencontre de celles et ceux qui tentent de sauver des vies, de ceux qui les traquent, et des migrants eux-mêmes. Vous écoutez Garçons Sauvages, saison 2, dernier passage. Une série de podcasts en 4 épisodes, diffusée par Blast, en partenariat avec Sésame Musique. Premier épisode, Biélorussie, instrumentaliser l'immigration.
Mars 2024, un petit matin d'hiver. Nous posons le pied sur le sol polonais avec pour objectif d'aller voir ce qui se passe à la frontière biélorusse. Nous faisons route avec Basile et Chané, notre ingé son, en direction d'Anovka, une petite ville à 10 km de la frontière biélorusse, pour rencontrer Alexandra, une militante qui, avec son ONG, vient en aide aux migrants perdus dans la forêt. Nous avons quitté Varsovie depuis 200 km maintenant, et plus nous nous approchons de la frontière, plus nous croisons des camions de l'armée et des traces du conflit si proche. La nuit tombe, les lumières de la ville commencent à nous éclairer et nous nous dirigeons vers le seul restaurant encore ouvert.
J'ai 2 heures. Ouais. J'ai 2 heures, dites-moi tout. Ouais.
Alexandra, membre du groupe Grupa Granica.
La frontière avec Biélorussie, ça fait plus de 400 km. Mm-hmm. Donc là, maintenant, presque tout le mouvement migratoire est concentré ici. Donc vers Białowieża, un peu au nord, un peu au sud, mais je dirais que ça fait plus ou moins 100 km. Oui. Mais avant, au début de la crise, le long de toute la frontière, on avait des bases. Le premier automne et premier hiver de la crise, on avait une dizaine de bases, des activistes et de groupes des habitants locaux, commençant très au nord, où il y a la frontière entre la Pologne, la Biélorussie et la Lituanie, et puis jusqu'au niveau de Biała Podlaska, oui. Donc ça fait à peu près 400 km. Oui. Là maintenant, c'est concentré plutôt ici.
Sur Białowieża et le village
au-dessus. Oui. Entre Masiewo et Czeremcha. Au sud,
c'est
oui.
Au sud de Biélorussie.
Czeremcha, c'est ici. Ici, c'est Kleszczele, et pas loin de Kleszczele, quelque part ici,
c'est au sud de Biélorussie, c'est ça ?
Oui, c'est au sud. Donc on a Hajnówka ici, Kleszczele, Czeremcha, mm-hmm. Et puis Masiewo ici. Et c'est rare qu'il y ait les demandes d'aide plus au nord. D'accord. Ou plus au sud de ça.
C'est quoi, hein? Ça fait 100 km
quand même. À peu près une centaine de kilomètres. La grande majorité des gens qui arrivent, ils viennent de Syrie, donc ce sont les Syriens. Il y a beaucoup de gens d'Afghanistan, de Yémen, du Soudan, de Somalie, de l'Éthiopie, de l'Érythrée. Je crois que ce sont les nationalités les plus fréquentes ici. Donc ce sont les gens qui fuient quand même, bon, soit la guerre, soit des régimes autoritaires.
À la frontière avec la Biélorussie, les barbelés sont déjà installés.
Extrait France 24, 14 octobre 2021.
Mais la Pologne veut aller plus loin et construire un mur de 180 km de long pour un coût de 353 millions d'euros. Le but, empêcher les migrants de franchir la frontière.
Piotr Muller, porte-parole du gouvernement polonais.
Il y a une guerre hybride à la frontière polono-biélorusse avec un déplacement massif et forcé de citoyens d'autres pays vers la Pologne, organisé par le régime de Loukachenko.
La Pologne, tout comme l'Union européenne, accuse en effet le régime biélorusse d'organiser une crise migratoire en réponse aux sanctions à son encontre. Des milliers de soldats polonais ont été postés à la frontière, l'état d'urgence a été décrété.
Oui, au début de la crise humanitaire, donc le premier automne, c'était l'automne 2021, il y avait beaucoup d'Irakiens aussi, surtout les Kurdes d'Irak. Mais en même temps, il y avait beaucoup de Syriens, de Yéménites, d'Afghans. Et ils venaient surtout directement à Minsk, la capitale de Biélorussie.
Ils sont passés par où pour aller jusqu'à Minsk ?
Soit de leur pays, soit ils changeaient quelque part leur avion, mais ils venaient par avion, oui.
Ils n'ont pas traversé toute l'Asie centrale.
Non. C'est parce que quand cette crise a commencé, c'était le régime biélorusse c'était Loukachenko qui avait cette idée, comme il dit, d'inonder l'Europe avec des immigrés.
C'est lui qui a frété les avions.
C'est lui qui a fait très facile de recevoir le visa biélorusse. Donc, du coup, il y avait des offices touristiques, des bureaux touristiques qui se sont ouverts dans les pays d'origine des gens qui ont commencé à venir. Donc, en Irak, en Afghanistan, dans les pays africains. Et donc, les gens, c'était très facile d'acheter le visa. Et puis, il y avait des bureaux touristiques qui organisaient le voyage. Donc, on prenait l'avion directement à Minsk. Et donc, en octobre, en novembre 2021, il y avait quelques centaines de gens par jour qui atterrissaient à Minsk. Et là, de Minsk, ils prenaient la voiture ou des bus pour arriver vers la frontière. Donc, ça, c'était les débuts. Après, il n'y avait plus besoin, c'est ce qu'on observait, oui, parce que cette nouvelle route pour les migrants était déjà ouverte. Donc les gens, ils ont compris que c'est une route qui est un peu moins dangereuse qu'à travers la Méditerranée. Donc on avait l'impression qu'il n'y avait plus besoin, que le gouvernement biélorusse n'avait plus besoin d'attirer ces gens. Activement, parce que c'était déjà fait, c'était déjà connu.
Comment c'est possible? Comment ils font pour... Il y a le mur, c'est ça, à un moment donné, entre la frontière, sur la frontière, il y a le mur, comment ils font pour passer?
Ils passent au-dessus, au-dessus du mur, c'est-à-dire ils reçoivent les échelles de soit des gardes frontières biélorusses, soit des passeurs, donc ils ont des échelles, et puis ils reçoivent aussi ou bien ils achètent des outils pour couper le fil barbelé, parce que il y a le mur de 5 mètres et au-dessus du mur, il y a encore...
Des rouleaux de barbelés. Ouais. Oui. Ça veut dire qu'avec les enfants de 5 ans, les femmes, etc., etc., ils montent sur le mur de 5 mètres, ils coupent les barbelés et ils sautent par-dessus le mur.
Avec les enfants, dernièrement, c'est rare qu'on rencontre des enfants. Mais d'habitude, si on rencontre des enfants, ils passent dessous. Oui, parce qu'ils creusent aussi dans la terre. Mmh. Ils creusent et ils passent au-dessous du mur. Pendant le premier mois de la crise, on a établi un numéro d'alarme,
okay.
Hotline.
Ouais.
Et c'est toujours le même numéro, donc il se le passe de bouche à l'oreille. Donc il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Et donc ils nous écrivent d'habitude, oui, sur le WhatsApp. Donc on leur demande toujours de nous envoyer leur localisation, leurs coordonnées.
WhatsApp.
Oui, ouais. Exactement. Okay. Ouais. Et leurs besoins. Donc oui, la nourriture, de l'eau, ça c'est clair, on emporte ça pour tout le monde. Et mais puis, on leur demande combien de gens il y a, s'il y a des femmes, s'il y a des enfants, et s'ils ont besoin des vêtements, des chaussures.
Des blessés.
Oui, s'il y a des blessés, s'ils ont des besoins médicaux, on a aussi les... Les médecins, les infirmières, parmi, bon, ils ont, bah, ils s'échangent, oui, mais il y a, on a toujours avec nous quelqu'un qui est un professionnel médecin. Donc on peut aussi les aider, bon, leur donner l'aide médicale élémentaire, oui. Parce que bien sûr, des fois, il faut appeler l'ambulance si c'est vraiment grave, si on peut pas les aider. Comme ça dans la forêt, mais on essaye d'éviter ça parce que si on appelle l'ambulance, c'est toujours les gardes frontières qui arrivent au premier, ce qui pose toujours un risque qu'ils vont être refoulés au lieu d'emmener à l'hôpital.
Nous sortons du restaurant avec Alexandra pour aller terminer l'interview à l'hôtel. Il est 23h et la petite ville polonaise est parfaitement déserte. Nous avons tous en tête la conversation que nous venons d'avoir avec elle. On commence à réaliser dans quel endroit on vient d'atterrir, avec un curieux mélange d'appréhension et d'envie d'en savoir plus.
Après le début de la guerre avec l'Ukraine, ils arrivent plutôt à Moscou, non plus à Minsk, mais de leur pays d'origine, ils travaillent et ils voyagent à Moscou. De Moscou, ils déjà prennent soit la voiture, soit le bus pour arriver à Minsk. Et de Minsk, de nouveau, en voiture ou en bus, vers la frontière. C'est ce qu'ils nous racontent, de toute façon.
Quand vous les trouvez, ils sont dans quel état ?
Ça dépend, parce qu'il y en a qui... Bon, je ne sais pas si ça dépend du fait combien d'argent ils ont pour payer les passeurs. Donc il y en a qui sont vraiment très bien préparés et qui arrivent vite fait, ils sont bien équipés, ils étaient bien informés comment se préparer pour se débrouiller avec les conditions. Oui. Ils payent beaucoup plus aux passeurs, ils sont du coup beaucoup mieux équipés, préparés pour tout le voyage. Donc des fois, on voit les gens qui sont dans un état vraiment relativement bon, oui. Et des fois, on rencontre des gens qui sont tout à fait épuisés, tout à fait désespérés, oui, parce que... Ça dépend aussi de combien de temps ils ont passé dans cette zone près de la frontière. Parce qu'une fois ils commencent à voyager du Minsk dans cette zone près de la frontière, ils sont piégés là-bas parce que les gardes frontières biélorusses, ils leur disent, c'est ce qu'ils nous racontent, les gens qu'on rencontre, que les gardes biélorusses, ils leur disent, une fois vous êtes ici, vous n'avez pas le chemin de retour. Oui. Soit vous arrivez à traverser en Pologne, effectivement, soit vous allez mourir ici. Vous ne pouvez pas revenir à Minsk. Donc, de nouveau, on rencontre parfois des gens qui nous disent « Oui, on était très épuisés, puis on avait l'argent, donc on a pu payer les gardes frontières biélorusses pour qu'ils nous laissent revenir à Minsk, on s'est reposé pendant quelques semaines ou quelques mois à Minsk et puis on a réessayé. Mais il y a des gens qui nous racontent, j'ai passé plusieurs semaines dans la forêt, près de la frontière, sans pouvoir me retirer à Minsk, sans abri, sans l'eau propre, oui, sans la nourriture, ou bien donc buvant juste de l'eau sale et mangeant des plantes trouvées dans la forêt.
Et parce qu'ils essayent de passer, ils se font renvoyer, c'est comme un effet ping-pong entre la Pologne et la Biélorussie.
Exactement. Donc c'est ce qu'ils nous racontent. Je me rappelle que le premier groupe des immigrés que j'ai rencontré pas loin de Ousnage, en août 2021, c'était justement cette comparaison qu'ils ont qu'ils m'ont raconté, où ils ont dit qu'ils se sentaient comme le jouet de comme la balle de ping-pong dans le jouet entre les gardes frontières des deux pays, hein. Que d'un côté il y a des gardes biélorusses qui les forcent à aller en Pologne, et puis les gardes frontières polonaises qui leur dit Non, vous n'avez pas le droit d'entrer en Pologne, il faut que vous reveniez en Biélorussie et il les refoule en Biélorussie. Il y a beaucoup de gens qui se font refouler plusieurs fois. Oui. Il y en a parmi eux qui ont de la chance vraiment et qui traversent la frontière et au bout d'une journée de 2 ou 3 jours, ils arrivent à s'en sortir, oui, à arriver quelque part dans un des pays qui était le pays de leur destination et ils commencent les procédures d'asile ou bien ils commencent à légaliser leur séjour dans leur pays de destination. Dans la majorité de cas, c'est plutôt la situation où ils se font arrêter plus une fois ou plusieurs fois par les gardes frontières ou bien par les militaires polonais. Ils se font refouler en Biélorussie, donc ils réessayent et ça peut être 2 fois, 3 fois, 10 fois. Je me rappelle aussi les gens qui nous disaient qu'ils étaient refoulés plus de 20 fois. Tôt ou tard, dans la plupart des cas, ils arrivent quand même à s'en sortir et à arriver dans leur pays de destination. Mmh. Oui. C'est la question du prix qu'ils payent pour arriver quelque part. Oui.
C'est quoi le prix ?
C'est la santé, oui. C'est toute la violence qu'ils expérimentent des deux côtés de la frontière. Pour le côté biélorusse, ce sont les tortures. Ils nous racontent que s'ils sont frappés là-bas, c'est vraiment très, très cruel. Ils sont frappés aussi par les armes. Hein. Oui, avec les armes. Pas tirer dessus. Ça arrive aussi. C'est plutôt rare qu'on nous raconte des histoires comme ça, mais j'ai déjà entendu parler des histoires que quelqu'un était tiré dessus, même tué, oui, avec des tirs. Mais d'habitude, ils sont frappés par les armes. Ils sont chassés par les chiens. Donc, on rencontre beaucoup de gens qui ont des traces, qui ont des morsures des chiens très très profondes.
C'est, oui, de la chasse à l'homme.
Exactement. Oui. Y a des gens qui nous racontent qu'ils étaient électrocutés. Je ne sais pas. Oui. Oui, électrocutés. Il y a des gens qui nous racontent qu'ils étaient forcés à entrer dans les rivières et de passer la frontière dans la rivière même, par la rivière même en hiver. Oui. Et avec quelques personnes qui nous ont parlé des viols, il y en a pas beaucoup qui ont reporté ça, mais ça c'est quelque chose dont les gens ne parlent pas trop.
Mais c'est possible que ce soit, ouais, plus commun qu'on,
oui,
le pense.
Oui, exactement, c'est ce qu'on pense, oui. Si on avait quelques, peut-être une dizaine de personnes qui ont reporté, qui ont parlé du viol, ça veut dire qu'il doit y avoir beaucoup plus. C'était des femmes, mais aussi des jeunes hommes. Donc on imagine que ça arrive en Biélorussie plutôt souvent. Donc c'est ça la réalité en Biélorussie. Et du côté polonais, aussi, ils sont frappés par les militaires, par les gardes frontières.
beau savoir qu'il existe, quand on aperçoit enfin les premiers mètres du mur, on est frappé par cette chose incongrue. C'est comme trouver un bunker sur une plage océanique. On se demande comment c'est arrivé là. Une forêt immense, coupée en deux par des barreaux de métal verticaux, qui s'enchaînent à perte de vue sur des centaines de kilomètres. Tout du long, des barbelés, des blocs de pierre, des caméras et des militaires qui font leur ronde. Littéralement, ça fait froid dans le dos. Nous nous approchons au plus près pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Le côté biélorusse.
Là, on est en train de se faire suivre par une...
Qu'est-ce qu'il fait ? C'est pas la bonne... Ah, ils vont nous arrêter, c'est ça ?
Ouais.
Peut-être que tu peux cacher le micro sous tes jambes. Vos papiers.
Tu dis que je sors, c'est dans le coffre. Agnieszka, je veux lui dire que c'est dans le coffre, faut que je le sorte.
C'est dans le coffre, donc il doit sortir. Les gardes frontières sont deux. Le premier joue le gentil flic, le deuxième porte une cagoule, des lunettes de soleil et a le doigt sur la gâchette de son fusil d'assaut. Ils n'ont aucune légitimité pour nous garder. On a le droit de filmer le mur si on s'en tient à plus de 10 mètres. Mais ils veulent nous faire comprendre que les curieux ne sont pas les bienvenus le long de la frontière. On a déjà été briefé par les ONG locales de cette volonté de faire peur aux journalistes et aux militants pour éviter que ce qui se trame autour du mur soit médiatisé. On reste bien sagement dans la voiture pendant une heure, avec le mur et la forêt en toile de fond. Finalement, ils nous laissent repartir. Nous voilà prévenus. On ne passera pas inaperçu pour la suite de notre reportage. Présentation faite avec les gardes frontières, on commence à se promener le long du mur lorsqu'on reçoit un message de groupe Agranitsa, le groupe d'Alexandra qui porte secours aux migrants dans la forêt. Des réfugiés seraient regroupés derrière le mur de séparation du côté biélorusse. Un vague point GPS sur une carte, des bruits d'hélicoptères au loin pour repère, on tente de s'y rendre. S'approcher du mur, donc comme je l'ai dit avant, on a essayé de traverser un morceau de forêt, ça fait à peu près une heure et demie qu'on marche, avec Basile, Chané, Aga, et on se rapproche du mur, on a croisé un défilé de voitures avec des militaires à l'intérieur, des voitures civiles, et donc là on arrive à peu près 50 mètres du mur, on sent le feu de bois, on sait pas trop ce qui nous attend, le mur est haut, imposant. Possiblement des migrants. On entend des voix, haut-parleurs. Il y a de la fumée. Derrière le mur, il n'y a pas vraiment âme qui vive du côté. Pas vraiment âme qui vive. Ah, si je vois. Donc je vois des gardes de l'autre côté. De l'autre côté, je crois voir un garde forestier ou des gardes biélorusses. Je crois que ça, c'est des migrants qui marchent. On s'est fait repérer, donc là, il y a des gardes qui vont peut-être venir nous voir. On va planter un peu le décor pour que vous ayez l'image bien en tête. On est au beau milieu d'une immense forêt, et là, devant nous, le chemin qu'on a arpenté se termine brutalement. Un mur, des tourelles avec des caméras, des militaires encagoulés qui font leur ronde, et de l'autre côté, une centaine d'hommes, de femmes et d'enfants qui crient. C'est pour les empêcher de passer qu'on a construit le mur, que les militaires sont là. Et c'est pour eux que, quelque part, nous aussi on est là. Ils sont à bien 50 mètres de nous. Pour s'entendre comme pour se comprendre, le dialogue s'annonce difficile. hélicoptère militaire qui vient de passer au-dessus de nous. What is your name?
Quel est ton nom?
Moham.
And you?
Et toi?
Je viens de Syrie.
How many?
Vous êtes combien?
On est 100 personnes.
Is there men?
Il y a des hommes?
Des hommes, des femmes, des enfants.
Women too.
Des femmes aussi?
And children?
Et des enfants?
Oui, il y en a beaucoup. S'il vous plaît, acceptez notre demande. Aidez-nous. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de protection. Ici, les gens meurent. Nous n'avons pas de nourriture.
Quoi ? Maintenant ?
Oui, même si nous le voulons, nous ne pouvons pas repartir. Nous allons mourir ici.
Vous ne pouvez pas repartir dans d'autres pays, c'est ça ? Pourquoi ?
Si on veut repartir, ils nous tuent. Dites à ma mère que je vais mourir ici, si je ne passe pas. Aidez-moi. Pas de nourriture, pas d'eau. Pas de nourriture, pas d'eau.
C'est quelque chose d'entendre à la radio ou à la télévision qu'une crise migratoire se passe aux portes de l'Europe, quelque part en Méditerranée, en Grèce ou en Pologne. C'en est une autre de prendre cette réalité en pleine face. Une centaine d'êtres humains qui ont traversé la planète pour venir chercher une autre vie se retrouvent devant un mur de séparation au fond d'une forêt primaire. Ils crient leur soif, leur faim et leur impuissance à terminer le périple. En repartant sur le chemin de la voiture, on se demande ce qui peut bien se passer dans la tête des militaires polonais dans ces moments-là. Quelle est l'histoire de tous ces migrants ? Et si on va retrouver certains de ces hommes et de ces femmes plus tard dans la forêt ?
Vous venez d'écouter Garçon Sauvage, saison 2, dernier passage. Une série de podcasts en 4 épisodes, diffusée par Blast. C'était le premier épisode, Biélorussie, instrumentalisait l'immigration. À la réalisation, Basile Crespin, Louis Lemaire de Pas et Chanel Le Foll. Travail journalistique et production éditoriale, Basile Crespin et Louis Lemaire de Pas. Enregistrement et post-production, Chanel Le Foll. Doublage des voix françaises, Sandy Le Foll, Carl Gravier et Louis Lemaire de Pas. Une production Garçon Sauvage en partenariat avec César Musique.